Sonar, l'écho de l'histoire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 5 de Sonar. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Loïc Barthomeuf, archiviste à la communauté de communes du Ponthieu-Marcanterre. Avec lui, nous allons remonter sur les traces oubliées de l'occupation allemande de Fort Mahon, de 1940 à 1944, et des faits de résistance des habitants de cette station balnéaire de la Côte d'Opale. Afin de mieux comprendre le sujet de Loïc, revenons en arrière sur les faits qui ont conduit à l'occupation du nord de la France et Fort Mahon de 1940 à 1944. En septembre 1939, Adolf Hitler, chancelier de l'Allemagne, envahit brutalement la Pologne et plonge l'Europe dans une guerre qui se transforme rapidement en nouveau conflit mondial. Par cette agression, il finit d'achever un ordre mondial construit 20 ans plus tôt par la ratification du traité de Versailles le 28 juin 1919.
Et ils ont frappé, malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère qui devait prendre fin sur son propre sol. Le peuple polonais, qui a vu ses enfants mourir, ses villes détruites, ses hommes tués ou emmenés en captivité, le peuple polonais n'oubliera pas.
Mais pourquoi le déclenchement d'une nouvelle guerre par l'Allemagne ? Hitler, porté au pouvoir suite à l'élection de 1933, met en place un régime totalitaire issu de l'idéologie du national-socialisme. Cette idéologie vise l'établissement de la supériorité d'une présumée race germanique sur les autres peuples par la conquête d'un territoire dit vital. Hitler réaffirme son dessein dans Mein Kampf. Je cite « Nous devons tourner notre regard vers les terres de l'Est. C'est l'épée qui donnera le sol à la charrue allemande. » En 1938, l'Autriche et les Sudètes sont rattachés au Troisième Reich, bafouant les garanties décidées lors du traité de Versailles. Enfin, en 1939, c'est au tour du couloir de Danzig d'être revendiqué par l'Allemagne au cours d'un ultimatum envoyé à la Pologne afin de réunifier le territoire isolé de Prusse orientale au Reich par le couloir côtier de Danzig.
La France, le Royaume-Uni et leurs alliés se portent rapidement au secours de la Pologne, déclenchant le début du second conflit mondial.
Faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposé. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, où le respect de la dignité humaine trouve un de ses derniers refuges, vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Vive la France!
Pourtant, en 1940, malgré quelques affrontements en Rhénanie, la France reste figée à l'invasion de la Pologne par l'Allemagne. Les deux ennemis vont ainsi rester statiques pendant plusieurs mois, ce qui va amener à parler de drôle de guerre. À l'été 1940, la France, persuadée que le conflit sera une guerre de position comme en 14-18, est balayée par la Blitzkrieg. La guerre éclair met en mouvement la machine de guerre. L'Allemagne met en marche un vaste plan de contournement de l'armée française et de la ligne Maginot par le territoire neutre du Luxembourg, avec au cœur de cette manœuvre l'utilisation massive des blindés. La France subit de plein fouet cette nouvelle forme de guerre, s'ensuit la débâcle, c'est-à-dire la défaite cuisante de l'armée française et l'exode de la population vers le sud. Les Allemands pénètrent rapidement le territoire et imposent une occupation avec une administration militaire.
Ici Radio-Diffusion Nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
C'est par cette décision que la France connaît deux régimes différents. Un État français, la zone libre, pilotée depuis Vichy par le maréchal Pétain, et une France occupée, sous administration allemande. Le département de la Somme se retrouve de fait dans la zone d'occupation allemande.
Ce bref contexte nous permet de mieux comprendre la situation dans laquelle se trouve Fort Mahon à la fin du mois de mai 1940, au moment où les Allemands occupent la commune. Nous allons découvrir maintenant, avec Loïc Barthomeuf, comment Fort Mahon et ses habitants ont vécu ces 4 années d'occupation militaire.
Bonjour Loïc.
Bonjour.
Merci d'être venu dans le studio. Donc pour contextualiser un petit peu, on va le dire aux auditeurs, on te connaît. On a été ensemble en licence à l'UPJV, donc à Amiens. On a suivi des voies différentes. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours ?
Donc tu l'as dit, je me suis d'abord lancé dans une licence histoire à l'UPJV, donc parcours histoire approfondie. C'est là que j'étais amené à travailler au contact des sources vraiment de l'histoire. J'ai été réellement intéressé par ces documents qui ont traversé les siècles, l'éclairage qu'ils apportent sur notre passé, sur là d'où on vient tout simplement. Et je me suis donc intéressé à l'histoire de ces documents eux-mêmes, et c'est naturellement que je me suis dirigé vers le master MATA, donc métier des archives et technologies appliquées, après l'obtention de ma licence. Donc l'avantage de ce master, c'était les périodes de stage directement au contact du métier et des professionnels, ce qui pouvait nous permettre de rencontrer les différentes institutions qui peuvent avoir recours aux archivistes, que ce soit public ou privé. C'est pendant mon dernier stage aux archives départementales de la Somme que l'opportunité s'est présentée de travailler à la Com de Com Pontchaumont-Carcanterre, où je suis en poste depuis juillet 2019, aussi bien pour les services intercommunaux que pour les communes qui en font la demande.
Ce poste donc, d'archiviste à la communauté de communes du Pontchaumont-Carcanterre, il consiste en quoi au quotidien ?
Alors, j'ai d'abord été recruté pour réorganiser les archives de la collectivité, donc reprendre l'arriéré papier conservé sur les 3 sites administratifs de la communauté de communes, donc il s'agit d'Aileau, Clocher, Nouvion et Rue. Ça représentait donc, plus de 350 mètres linéaires d'archives, donc, c'est-à-dire qu'en mettant des boîtes bout à bout, on obtient une ligne de 350 mètres de documents, pour vous donner une idée. Donc mon rôle au départ, c'était de remettre dans l'ordre dans les documents produits par toutes ces institutions successives.
Donc pour ce qui concerne notre sujet du jour, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces fonds de la Seconde Guerre mondiale ?
En fait, rapidement, les élus ont décidé de mettre à disposition des 71 communes de la Com de Com la fonction archive, donc par mon intermédiaire, par le biais de convention, pour les communes qui le désiraient. C'est ainsi que j'ai reçu une demande de la commune de Fort Mahon qui souhaitait que j'intervienne d'abord pour un diagnostic et s'y ajouter du coup une dimension de traitement des archives historiques. Donc ces archives de la Seconde Guerre mondiale et un peu antérieures, hein, puisque ça va jusqu'à partir de 1904. Et ces archives historiques, le code du patrimoine indique que les communes de moins de 2000 habitants doivent les déposer aux archives départementales, les archives de plus de 50 ans. La commune reste propriétaire des archives, mais le bordereau de dépôt va entériner le transfert de responsabilité des archives de la commune vers les archives départementales. Et c'est là que j'intervenais, puisque c'est moi qui ai rédigé en fait, ce bordereau de dépôt. Donc je n'ai pas à proprement parler classer le fonds d'archives, c'est pour ça que je ne vais pas forcément dans le détail dans mon article, mais j'ai rédigé ce bordereau de dépôt, il a bien fallu décrire un minimum les documents, et c'est là que je me suis rendu compte de la richesse du fonds d'archives.
Quel rapport tu entretiens avec l'archive au quotidien ?
Donc il s'agit, comme j'ai dit, mon travail s'agit d'une part de collecter, de conserver, de classer et de communiquer les archives, donc c'est ce qu'on appelle les 4 C dans le milieu archivistique. Une autre partie intéressante du métier, c'est de déterminer les durées d'utilité administrative des documents, même les plus récents, lorsque les instructions ne le permettent pas. Ça permet en fait, on va évaluer la pertinence ou non de conserver ces documents en lien avec les archives départementales et les services qui ont produit les documents, bien sûr. Mais en gros, pour le dire simplement, c'est ni plus ni moins décider des sources de l'histoire de notre époque que nous allons transmettre aux générations futures. Au-delà de cet aspect, il arrive encore, comme les documents dont il est question, que l'on retrouve des documents dans les communes qui dorment dans les greniers, dans les caves et qui pourtant ont un éclairage très précieux sur l'histoire du territoire. Et si ces documents sont destinés aux archives départementales, j'ai tout de même le plaisir d'être celui qui les retrouve et parfois celui qui les valorise par le biais d'articles notamment.
Juste avant la guerre, c'est quoi Fort Mahon finalement ?
Déjà, Fort Mahon, c'est une commune à part entière à partir de 1923. Auparavant, elle est rattachée à la commune de Quin, qui se trouve un peu plus au sud. La commune, c'est une ville côtière picarde, bon, les belles plages donnant sur la Manche sont aujourd'hui très prisées des touristes. La ville comptait un peu moins de 1000 habitants en 1936, c'est un chiffre qui varie déjà en été selon l'afflux de touristes. Au moment de la déclaration de guerre, le maire était Monsieur Philippot. Il accompagnera la commune et ses habitants durant toute l'occupation, et malheureusement, il s'éteint lors des premiers jours de la libération. Il y a d'ailleurs un document émouvant de ce maire qui écrit à un officier français au sujet du premier Fort Mahonais tué avant même l'invasion allemande.
Donc tu cites des documents où on a en fait des aspects de la mentalité, des écrins de la mentalité des forts mahonnais, c'est comme ça qu'on le dit.
C'est ça.
Et est-ce qu'il y a d'autres documents? Est-ce qu'on peut connaître un peu leur quotidien justement à travers ces documents durant l'occupation?
Oui, il y en a effectivement. Alors ça reste, on va dire, en surface. Mais déjà, on peut sentir, avant même l'invasion, on peut sentir à travers les documents le contexte de guerre qui se rapproche. Globalement, l'occupant va arriver à Fort Mahon sans qu'il y ait eu de combat sur place, puisque l'essentiel du conflit à ce moment, il s'est déroulé autour de la poche de Dunkerque et lors de l'opération Dynamo, hein, celle qui a permis l'évacuation donc, de quelques 300 000 hommes vers l'Angleterre entre le 26 mai et le 3 juin 1940. Ce qui n'empêche pas, donc, je l'ai dit, la commune de perdre quelques habitants mobilisés, dont le premier, Gaston Villet, est mort en mars 1940, donc avant l'invasion, sur les escarmouches qui ont eu lieu à la frontière.
Finalement, tu dis que Fort Mahon, elle n'est pas sur la ligne de front, dans le conflit directement, mais je suppose qu'elle n'est pas épargnée non plus.
Non, effectivement, l'occupant, dès qu'il s'installe, va, de fait, de la position côtière de la commune, il va couler du béton, il va préparer des bunkers, il va interdire l'accès à la plage, à la zone côtière pendant un moment, donc avec les conséquences qu'on imagine sur le tourisme, sur la pêche, etc. Pour une ville côtière, c'est quand même assez dramatique. On a aussi des trous pour les chars, etc., des obstacles pour les chars sur la plage, et donc un contrôle assez strict de qui rentre et qui sort de la commune. Donc la commune va voir... un document évoque environ 400 villas détruites par l'effet d'occupation ou de construction d'ouvrages militaires. Donc chiffre à vérifier, mais ça paraît assez plausible, puisqu'effectivement, la plupart se concentraient sur le bord de mer.
Il y a une volonté des Allemands de construire précisément sur ces plages?
Oui, effectivement, c'est ce qu'on va appeler plus tard, en extension en tout cas, le mur de l'Atlantique, avec l'idée que le débarquement allié arrivera par des plages. À ce moment-là, effectivement, en 40 et 41, on n'en parle pas encore trop, mais il y a déjà cette paranoïa, mais cette crainte de l'occupant de voir effectivement une attaque par la mer, ce qui explique là les bunkers, et Fort Mahon n'est certainement pas la seule commune côtière impactée par ces ouvrages militaires. C'est presque un peu pour son malheur à ce moment-là qu'elle est une commune côtière, puisqu'effectivement, c'est ce qui va impliquer tous ces ouvrages militaires et une surveillance peut-être un peu plus étroite que sur certaines communes plus à l'intérieur des terres.
Parce qu'on le rappelle, le mur de l'Atlantique, du coup, il court du nord au Pas-de-Calais jusqu'à la frontière franco-espagnole.
C'est ça, c'est ça, et en particulier, oui, sur le mur de l'Atlantique, entre, on va dire, Bordeaux et la Bretagne, on a vraiment des édifices impressionnants censés empêcher tout débarquement, et on peut effectivement se demander ce qui serait passé s'ils avaient fini par débarquer à cet endroit-là.
Alors, ces habitants de Fort Mahon, est-ce qu'on connaît leur quotidien durant cette occupation allemande ?
Alors, c'est difficile de le saisir dans toute sa complexité, je dirais, mais il est possible de retracer certaines tendances dans les documents. On sait par exemple que la mairie a mis en place dès la fin 1940 un service dédié à la gestion des courriers et des colis envoyés aux prisonniers de guerre. Quelques lettres se trouvent d'ailleurs dans le fond d'archives. Elles évoquent l'ennui, la nourriture assez mauvaise, l'éloignement forcément difficile avec les familles. Et on imagine aisément l'inquiétude aussi du côté des Fort Mahonnais qui avaient un proche emprisonné en Allemagne. Il y a des restrictions, je l'ai évoqué dans l'article, imposées par l'occupant et qui minent le quotidien. C'est le couvre-feu, c'est l'interdiction de quitter la commune sans autorisation, aucune lumière tolérée la nuit pour éviter les attaques de l'aviation, et un moment même, comme j'ai dit, l'interdiction de circuler sur la zone côtière, avec ce que cela implique pour une commune comme Fort Mahon. Des documents mentionnent aussi l'interdiction des célébrations du 11 novembre, après celle de 1940, où des débordements avaient eu lieu à Paris, à l'initiative d'étudiants et de lycéens. Un officier allemand évoque d'ailleurs dans une lettre de 1942 les mesures qui sont à prendre pour éviter ces débordements. Il mentionne aussi que ce jour n'est plus considéré comme férié. On imagine la position délicate du maire qui doit annoncer à la population et faire respecter ces mesures-là. Les archives, elles évoquent aussi le rationnement, bien sûr, avec la difficulté de s'approvisionner pour certaines denrées, le charbon notamment, l'essence. Certains propriétaires qui n'étaient pas à Fort Mahon à l'arrivée des Allemands, ils vont demander au maire des informations sur leurs biens. Donc comme je l'ai dit, beaucoup de villas qui vont être détruites ou réquisitionnées. Donc ça va être beaucoup des questions autour de ça, des personnes qui n'ont pas pu rejoindre Fort Mahon avant l'occupation. Bien sûr, d'autres personnes demandent simplement des nouvelles de leur famille restée là-bas. Donc ça donne une idée un petit peu du quotidien. En dehors de ça, je l'ai dit, il n'y a pas vraiment eu de combat, mais l'article le montre. La position côtière de Formaon en fait un enjeu stratégique. Et il y a des batteries de DCA, un document nous apprend que des batteries de DCA sont placées aussi à proximité de la commune, qui sont la cible parfois d'attaques de l'aviation, donc probablement anglaise, qui va tirer du coup d'une hauteur importante, ce qui va engendrer une précision toute relative, ce qui explique dans mon article ce document où le directeur d'école se plaint d'une balle notamment qui a traversé la classe, ou encore d'une attaque en plein milieu de la cafétéria, enfin pendant le repas en tout cas. Et j'ai retrouvé d'ailleurs dans les documents des brassards en tissu indiquant défense passive. Donc ça correspondait, la défense passive, au service civil de secours lors des bombardements. S'il n'y eut jamais vraiment de bombardement à Fort Mahon, il y eut des attaques plus ciblées donc par l'aviation anglaise, comme on a vu, probablement davantage dans des missions de repérage que lors de véritables attaques, mais il y avait bien cette crainte quand même pour la population au quotidien. D'autres documents évoquent l'arrestation de certains habitants, particulièrement lorsque l'étau se resserre autour de l'Allemagne et de ses alliés et que le débarquement approche. On a un document de 11 juillet 44, donc dans un contexte forcément tendu, hein, puisque le débarquement qui a eu lieu le 6 juin semble déjà s'ancrer durablement en France. On nous apprend donc dans ce document que la mairie a été cernée par une compagnie d'infanterie allemande, ainsi que plusieurs habitations, dont celle du maire, et que 14 administrés inculpés d'espionnage ont été arrêtés. Heureusement, à ce moment, en tout cas, ils sont relâchés un peu plus tard, et il s'agit d'un contexte de tension particulier, comme je l'ai dit, qui n'a pas cours sur toute la période, mais ça donne une idée du genre de situation un peu extrême auquel les habitants pouvaient être confrontés. Les archives mentionnent aussi les champs de mines, où parfois des égarés vont perdre la vie, et ces champs de mines seront un véritable problème, jusque même dans les années 60-70, où des démineurs perdront encore la vie sur les plages de Fort Mahon. On peut donc considérer que les habitants furent durement frappés par les restrictions, les mesures sévères de l'occupant et les faits de guerre. Mais on a vu qu'il y avait aussi un petit peu de solidarité qui était à l'œuvre, avec des habitants qui se débrouillaient pour avoir ce dont ils avaient besoin.
Tu nous as parlé de la solidarité entre les habitants, donc ils ne sont pas tous passifs, et tu nous as même évoqué des faits de résistance. Est-ce que tu peux dire en quoi ça consiste, et si on connaît un peu plus sur ces résistants sur la commune de Fort Mahon?
Alors déjà, pour un contexte un peu plus général, on a souvent retenu l'appel du 18 juin, effectivement, comme date charnière pour la résistance en France. Donc c'est De Gaulle qui lance en 1940 son appel resté célèbre, l'appel du 18 juin, pour inciter les Français à continuer le combat en opposition donc, avec les directives du nouveau gouvernement installé à Vichy. On sait que des mouvements vont se créer en France, en zone libre comme en zone occupée. On connaît l'œuvre de Jean Moulin pour unir ces mouvements, notamment dans le sud, avec ce qui va devenir le MUR, le mouvement uni de résistance. Et il faut bien comprendre que sans cette unification et sans matériel, donc retenons simplement qu'à Fort Mahon, il y avait un réel besoin, comme beaucoup d'autres endroits en France, de matériel et de coordination pour être efficace. Et le contexte dans lequel se déroulent les actions des résistants fort mahonnais va rendre bien compte de cet état de fait.
Donc là, on parle des résistants qui sont partis rejoindre la France libre en Angleterre, mais il y a aussi des gens qui restent sur place et qui s'organisent au niveau local.
Effectivement, donc il y a des documents en particulier ceux rédigés quelques jours après la libération de la ville, qui vont évoquer un réseau de résistance locale qui semble assez bien structuré, rattaché d'abord aux francs-tireurs partisans, puis à partir du 1er février 1944, les francs-tireurs partisans sont intégrés aux forces françaises de l'intérieur. Tout ça, ça représente en tout cas l'effort de centralisation des forces de la résistance lancé par De Gaulle. Il est vrai qu'à partir de ce moment, le réseau semble un peu plus structuré, ses missions un peu mieux définies, notamment autour du retrait et du désamorçage des mines sur la plage. Toutefois, les résistants avaient déjà quelques actions à leur actif avant cela. On a un document rédigé en octobre 41, où le maire évoque en fait des armes abandonnées par les alliés sur la plage au moment de la défaite. Et plus tard, donc dans un discours prononcé en 2008, Roger Gallet, qui a été le chef de secteur des francs-tireurs partisans en fait dans toute cette zone, mentionne que les premières actions du groupe de résistance de Fort Mahon consistaient justement à récupérer ces armes. En 1944, les documents mentionnent que des groupes de résistance de Rue et de Quin recevaient un approvisionnement en armes par les résistants de Fort Mahon. Alors on ne sait pas s'il s'agit de ces armes ou de celles récemment prises à l'ennemi. En tout cas, on sait que ça faisait partie de leur mission.
Donc Loïc, t'évoquais Roger Gallet, donc qui est une figure de la région, mais il y a aussi donc vraiment des individus dans la commune, et on a pu cibler leur nom, on peut retracer un peu leur parcours, leur histoire.
On connaît un certain Fernand Baquet, qui est coiffeur à Fort Mahon et qui avait formé un groupe de résistance qui s'est rapidement spécialisé dans l'extraction des mines que les Allemands posaient sur les plages autour du village. Ce même Fernand Baquet, il va être repéré, alors on ne sait pas comment, mais par les Allemands, et son domicile va être encerclé par la Gestapo. C'est à ce moment qu'il meurt. On a des témoins qui évoquent des coups de feu qui ont été échangés. Donc il meurt le 3 juin 1944. Alors, on ne sait pas exactement quel âge avait Fernand Baquet. Apparemment, c'est quand même moins de 40 ans au moment où il est mort. Et donc, il est encore un peu difficile d'établir précisément les profils de ces résistants, mais il semble quand même s'agir d'hommes surtout jeunes. On a un compte-rendu d'action des forces françaises de l'intérieur en 1944 qui évoque un groupe d'attaque dont le chef a 34 ans, le second 27 ans et les autres en gros 19 ou 20 ans. D'autres ont concédé avoir rejoint la résistance dès 1941 alors qu'ils étaient âgés de 15-16 ans, donc ça colle effectivement avec l'âge qu'ils ont en 1944. Si dans les groupes cités dans les documents officiels, on n'évoque pas de femmes, d'autres documents montrent que certaines ont été arrêtées, notamment Germaine Baquet, donc peut-être parente avec Fernand Baquet, ça je peux pas le confirmer avec les documents. En tout cas, elle était impliquée dans les actions de résistance et arrêtée par les Allemands. Le document qui évoque Germaine Baquet, je crois de mémoire que c'est une lettre du maire qui évoque que plusieurs administrés ont été arrêtés, dont Germaine Baquet, soupçonnée de, voilà, de faits de résistance, donc au moment où les Allemands ne sont pas encore... complètement parti, en tout cas, de Formin.
On le disait, il y a à peu près 1000 habitants sur la commune. Est-ce qu'on a une idée du nombre total de résistants à l'époque ?
Bah, on sait qu'il y a plusieurs groupes qui sont mentionnés en 1944. Au total, on sait qu'ils sont ensemble en fait, une quarantaine de membres qui vont être attachés vraiment au FFI. Mais il est difficile de savoir s'il s'agit effectivement de la totalité des résistants de la commune ou non.
Parce qu'on peut différencier peut-être des résistants officiels et des gens qui ont pu...
C'est ça, potentiellement, ponctuellement, il y a pu y avoir une personne qui, s'est, voilà, qui a effectué une action qu'on pourrait considérer comme une action de résistance, sans pour autant être affilié, voilà, au FFI ou aux francs-tireurs partisans avant. Enfin, à la suite du débarquement, les troupes allemandes sont de plus en plus agitées, c'est ce que nous apprennent aussi les documents, les taux se resserrent un peu aussi autour des résistances, à ce moment-là que Fernand Baquet se fait tuer par la Gestapo. On sait que voilà, les jeunes en situation irrégulière sont vraiment, ne peuvent pas tenter de sortie, quoi, ce serait trop risqué. Et on sait ensuite que un document de 1945 nous apprend que, voilà, que Fort-Mahon a été libéré, je crois que c'est le 3 septembre 1944. Il précise sans que soit tiré un seul coup de feu, alors c'est pas tout à fait exact. En réalité, effectivement, les combats n'ont pas touché la commune de plein fouet au moment de la libération, puisque les Allemands ils sont portés d'ici vers d'autres fronts assez rapidement, mais les combats ont bien eu lieu aux abords de la ville, dans les champs de mines notamment, et les résistants ont entrepris des actions de guérilla et de harcèlement sur les troupes allemandes qui partaient pour les retarder au maximum. Et on sait que avant le débarquement, ou dans la proximité immédiate du débarquement, des opérations de déminage ont eu lieu sur les plages, mais des opérations plus intenses qu'avant. Et on sait que le déminage participait de cette opération Fortitude, lancée par Churchill, qui visait à justement brouiller les pistes sur l'emplacement potentiel du débarquement. Ce qui a entraîné un peu des escarmouches, puisqu'on a un résistant, Raymond Lemaire, qui mène son groupe et qui doit se replier dans un champ de mine sous les tirs allemands. Il finit malheureusement par marcher sur une mine, et lui meurt, et ses deux compagnons sont blessés.
Donc Loïc, suite à ce débarquement de Normandie et la libération de la ville de Paris au mois d'août, les combats donc ils s'éloignent. Qu'est-ce que ça a comme impact en fait pour cette résistance et la ville de Fort-Mahon ? Comment elle se retrouve à la libération, si je puis dire ?
On sait qu'il y a eu quelques destructions, comme j'avais évoqué, surtout pour la construction des ouvrages militaires. On sait d'ailleurs que dans une lettre, le maire rappelle que la ville a été libérée sans que soit tiré un seul coup de feu. Il a l'air un peu amer quand il dit ça, dans le sens où effectivement, ils ont passé 4 ans à couler du béton, à faire des bunkers, etc., pour qu'aucun combat n'ait vraiment lieu sur place. Bon. On sait qu'il y a beaucoup de villas qui ont été détruites, que le front de mer est un peu ravagé avec des obstacles pour les chars, les mines, etc. On sent ensuite dans les documents postérieurs à septembre 44 que les combats s'éloignent. Les résistants sont affectés à la sécurisation de la commune, mais en gros il n'y a plus vraiment de risque. On a un affichage qui invite plus tard les résistants à remettre leurs armes en mairie. On ne sait pas grand chose des premiers mois de la libération, si ce n'est que certains procès ou des ordres d'arrestation sont lancés contre quelques personnes soupçonnées d'avoir collaboré. À ma connaissance, sachant que j'ai pas pu lire tous les documents bien sûr, nous n'avons pas de traces sur ce qui est advenu de ces personnes condamnées, enfin en tout cas de ces personnes recherchées. Au niveau des accusations, il y a juste un exemple qui me vient, on sait simplement qu'une personne est accusée d'avoir servi de traducteur aux Allemands. Voilà, difficile de savoir s'il s'agissait de volontariat ou de contrainte en l'occurrence. Et à l'instar de beaucoup d'autres communes en France, les blessures vont être longues à cicatriser et la reconstruction va prendre un certain temps, je l'ai pris notamment dit pour les champs de mines, et le tourisme en fut grandement freiné jusque dans les années 1970.
Donc il y a cette cicatrice physique que tu évoques à travers l'espace urbain, les bâtiments qui sont détruits, mais il y a aussi peut-être une cicatrice mémorielle. Toi, ton travail, c'est d'étudier donc, les documents d'archives, mais est-ce qu'à Fort-Mahon, dans les mémoires ou dans l'espace public, il y a encore des traces qui sont visibles de cette occupation allemande et de la résistance ?
Il y a d'abord des documents relatifs à l'érection d'une stèle qui va commémorer la résistance. Cette stèle, elle est érigée en 1960. Et les documents de ce fonds vont relater a posteriori, notamment dans les discours, des faits de résistance s'étant déroulés à Fort-Mahon. On a donc le récit assez célèbre de ces 5 jeunes Fort-Mahonais qui ont en 1941 quitté la commune à bord d'un canoë indien pour rejoindre l'Angleterre et les forces françaises libres. Donc après je crois 2 nuits en mer, ils ont réussi à atteindre des côtes anglaises et ils reviendront ensuite avec les combattants de la France libre pour reconquérir le pays. L'un d'eux va d'ailleurs tomber en Alsace sous les balles allemandes. Enfin, il reste déjà bien sûr ce fonds d'archives. Alors, il va être prochainement déposé aux archives départementales. Il va faire l'objet d'une désinfection, d'un dépoussiérage, d'un classement. Donc, à l'issue de ces travaux un peu fastidieux, en tout cas, il sera disponible pour une consultation en salle de lecture à Amiens. J'espère d'ailleurs qu'il intéressera des historiens ou même des amateurs qui pourront produire à son sujet quelque chose de plus scientifique.
Le grand public.
Voilà, le grand public, en somme. C'est en concertation avec la commune de Fort-Mahon, que je remercie pour sa confiance et son accueil au passage, et la com de com Ponthieu Marpentier, que j'ai réalisé cet article. Donc il y a effectivement une volonté de mettre en lumière ce patrimoine. L'année prochaine, la commune de Fort-Mahon fêtera ses 100 ans, donc divers événements seront organisés pour l'occasion, et l'histoire de la ville sera mise à l'honneur. Pour beaucoup, en fait, ils ignoraient que ce patrimoine se trouvait là, pour certains agents, littéralement sous leurs pieds, puisque c'était à la cave de la mairie de Fort-Mahon. Je sais qu'ils ont été très intéressés par nos échanges et par cet article. Du point de vue des bâtiments, il reste en effet des choses visibles, donc notamment les bunkers. On a l'un d'eux qui se trouve sur le boulevard maritime sud. Lui, il est désormais orné d'une stèle en l'honneur des 5 jeunes Fort-Mahonais que j'avais évoqués, qui quittèrent la commune occupée pour rejoindre les FFM en Angleterre. Donc celui-là, il est effectivement quand même mis en valeur par cette stèle. Alors après, peut-être qu'il y a beaucoup de Fort-Mahonais qui passent devant sans forcément savoir vraiment à quoi ça correspond. Et dans la continuité du boulevard maritime nord, il reste également un blockhaus dans les dunes. Il y a peut-être d'autres traces, en tout cas que moi j'ai pas pu forcément voir, et peut-être qu'on trouvera d'autres traces potentiellement plus anciennes encore dans les archives, notamment de la commune de Quin. C'est vrai que si celle-ci choisit de mutualiser, il y aura peut-être moyen de faire la jonction avec le fonds d'archives de Fort-Mahon. Ce passé de Fort-Mahon, il reste dans les bâtiments, dans le sol, même puisque le bunker est aujourd'hui au niveau du sol. Je pense que la commune a vraiment à cœur de mettre en avant son histoire.
Ça sera le mot de la fin. Merci Loïc.
Merci à vous.
Vous pouvez retrouver l'article de Loïc publié sur le site de la communauté de communes Ponthieu Marcanter ou sur notre post Facebook de l'émission. Pour clôturer cet épisode, nous avons demandé à Loïc de proposer le morceau de son choix. Loïc, quel morceau as-tu choisi ?
Il s'agit du morceau Une ode à la mort par le groupe de punk français Justine, et pour la petite anecdote, le bassiste de ce groupe est aussi guitariste dans le groupe de métal français également Ultra Vomit.
On te remercie Loïc.